lecture et relecture. La chronique de Jacques Rigaud sur Canal Académie.
Je vais vous parler d'un livre sur l'Europe. Alors vous allez me dire, encore l'Europe, et des livres, il y en a tellement eu. Et c'est vrai que l'Europe n'a pas bonne presse, elle est en crise, elle est léthargique, elle est compliquée, tatillonne. On en parle tous les jours à propos de la crise économique et financière, des plans de relance, des sommets en tout genre, il y en a très souvent. C'est l'Europe du court terme, c'est l'Europe des événements, l'Europe politique qui, je le répète, n'a pas bonne presse et que les gouvernements ont d'ailleurs tendance à accuser de tous les maux. Une Europe qui est présentée sous ses aspects les plus institutionnels, plus attractifs pour les chroniqueurs, mais pas nécessairement pour le grand public. Or, l'Europe, elle existe. L'euro est une réalité. Que se serait-il passé si elle n'avait pas eu l'euro dans la tempête financière actuelle? Il y aurait eu des cascades de dévaluation. L'espace Schengen existe. On parcourt l'Europe sans se rendre compte qu'on passe des frontières. Cette récession que nous vivons actuellement, tout le monde se rend compte que certes, il y a une part pour les décisions nationales, mais qu'un certain nombre de problèmes ne peuvent se régler qu'au niveau de l'Europe. Nous allons avoir l'année prochaine des élections européennes. Peut-on cependant, au milieu de ce tohu-bohu, avoir un regard nouveau, tonique et constructif sur l'Europe ? C'est le cas du livre dont je vais vous parler. L'auteur, je ne dis pas son nom pour l'instant, est un historien pétri de culture européenne et notamment de culture française, mais qui porte sur l'Europe un regard à la fois familier et extérieur, un regard critique, sans complaisance, mais chaleureux, et qui, tout en étant pleinement actuel dans son propos, parle de l'Europe au-delà du court terme, en se libérant de l'immédiate, de la frénésie médiatique d'aujourd'hui. Vous n'entendrez pas parler dans ce livre de la Géorgie, de M. Sarkozy, du dernier sommet et des péripéties actuelles. Mais vous y verrez les problèmes de l'Europe d'aujourd'hui, et vraiment les problèmes actuels, replacés dans une vaste perspective historique et mondiale. Alors, quel est cet auteur dont je vous cache le nom ? Ça n'est pas un de ces Américains ou complètement ignorant de l'Europe, ou arrogant à l'égard de la vieille Europe pour nous faire la leçon. Ça n'est pas davantage un Africain plein d'aigreur et de ressentiment. Ça n'est pas non plus un Indien ou un Chinois qui voudrait ne faire de l'économie européenne qu'une bouchée. Cet oiseau rare, c'est Elie Barnavi, historien, qui a été ambassadeur d'Israël en France au début de ce siècle et qui vient d'écrire un livre, achevé d'imprimer en août dernier, donc tout récent, qu'il a appelé « L'Europe frigide ». Il est écrit en français. Et dans quel français ? Pas un français de traduction, pas un français technocratique, le français d'un honnête homme. Ce livre est publié par André Versailles, éditeur. Je dois dire, et il est rare que je me livre autant, que j'ai été emballé par ce livre et que presque à chaque phrase, j'avais envie de dire « C'est ce que je pense », à telle enseigne que je le fais lire à tous mes amis et j'inclus les auditeurs d'un Canal Académie. Et je l'ai donné à mon petit-fils qui a 18 ans, qui découvre le monde et l'Europe, qui ne connaît rien de ce que les vieux crocodiles comme moi ont vécu, mais qui vont vivre de toute manière, toute leur vie, avec l'Europe. Comme ma génération, j'avais 18 ans en 1950 à l'annonce du plan Schuman, et pendant ces 58 ans, l'Europe a marqué ma vie personnelle, mes voyages, mes emballements, ma réflexion et, dans une large mesure, mon travail. Élie Barnaby résonne dans ce livre, comme l'historien qu'il est, je vais le démontrer dans un instant, comme un homme politique qu'il est également, comme un diplomate, comme quelqu'un, je ne connais pas très bien le détail de la vie de Barnaby, mais visiblement, il est pétri de culture européenne. Le livre est d'ailleurs dédié à son ami Boris Guérémec. Il part d'abord de l'échec du traité de Lisbonne en Irlande et s'interroge sur la portée de ce rejet et sur ses conséquences qui conduisent l'Europe, pour l'instant, à patiner. Et il dit que c'est une Europe frigide parce qu'elle ne sait pas ou ne sait plus se faire aimer. Il dit qu'elle n'inspire plus le désir à ses citoyens et à peine à ses amants, dont il est d'ailleurs. Il considère quand même que l'Europe est une prodigieuse réussite, que par exemple, et c'est ça qu'il faut dire aux jeunes, que la guerre entre pays européens, qui nous a fait nous entre-déchirer pendant des siècles, est non seulement impossible, mais même inconcevable. Que l'Union européenne, je citais l'espace Schengen, l'euro, l'unité du marché, c'est une réalité. Il signale qu'elle a perdu son meilleur ennemi, qui était l'Union soviétique, et que, élargie à l'ensemble des anciennes démocraties populaires, elle a atteint, j'y reviendrai, ses frontières, mais qu'elle n'a plus d'ennemis. Et il reparle de quelque chose que les militants européens ont vécu douloureusement, mais qui est complètement oublié. Le plan Schuman en 1950 consistait à unir entre la France et l'Allemagne, et ceux qui le voudraient bien, les industries de la guerre, qui étaient le charbon et l'acier. La deuxième étape, qui a été tentée sans doute trop vite, était l'Europe de la défense, ce qu'on appelait la CED, la Communauté européenne de défense, qui a échoué, largement d'ailleurs du fait de la France, en 1954, et qui a conduit les pères fondateurs de l'Europe à se replier sur l'économie et à penser à l'idée d'un marché commun. Alors il y a une phrase de Jean Monnet qu'on cite souvent et qui est apocryphe. « Si c'était à refaire, je commencerais par la culture. » Heureusement qu'il n'a pas commencé par la culture, et je dirai tout à l'heure pourquoi. Mais enfin, on a réduit l'Europe à l'économie. Alors on a fait dans ce domaine beaucoup de choses, et l'union économique est maintenant une réalité, et elle a apporté la prospérité à beaucoup de pays. Songeons au Portugal, ou à cette ingrate Irlande, qui rejette aujourd'hui l'Europe et que nous avons pu connaître dans les années 50 et 60 comme des pays sous-développés, en voyant en France, notamment pour le Portugal, beaucoup de ces travailleurs sans travail, qui se sont d'ailleurs parfaitement intégrés à la société française. Mais l'Europe n'a été qu'un projet économique, alors qu'elle est beaucoup plus. Et je ne vais pas entrer dans le détail des analyses et des propositions d'Élie Barnaby, mais il faut savoir que pour lui, l'Europe est avant tout une culture. C'est une civilisation. Il souligne à juste titre que l'approche politique de l'Europe, qui est la nôtre, a tendance à mettre l'accent sur les différences. Différences de mentalité, différences de mémoire, différences de structure. On nous explique actuellement que ce qui complique la vie de Mme Merkel, c'est que l'Allemagne est un État fédéral et que les Länder ont beaucoup plus de pouvoir que les régions et qu'elles ont elles-mêmes des problèmes financiers. La coopération entre les pays d'Europe est lourde. C'est la culture qui fait l'unité de l'Europe, laquelle est d'abord une civilisation. Alors si j'insiste là-dessus, c'est que c'est l'aspect le plus original et le plus documenté du livre d'Élie Barnaby, et que malheureusement, dans les commentaires actuels sur l'Europe, on oublie trop cette réalité. Et les pages qu'il consacre aux racines de l'Europe sont sans doute parmi les plus lumineuses, non seulement du livre, mais de ce qui a pu être écrit sur l'Europe. Et il en parle, non pas de manière pédante, simplement allusive, mais de manière tellement illustrante. Et il nous dit, il faut assumer l'Europe dans sa totalité, sinon c'est une Europe mutilée. Alors il voit quatre piliers à l'Europe, là il n'invente rien, nous le savons tous. Les racines grecques, qui nous ont enseigné la démocratie, les racines romaines, qui nous ont appris les principes du droit, le concept de citoyenneté, de souveraineté, et le concept d'empire, qui a eu diverses fortunes. Il y a un troisième pilier sur lequel, et peut-être c'est là que le livre est le plus original, c'est les barbares, qu'il appelle les premiers Européens. Et c'est assez vrai, parce que tous ces peuples venus du fond de l'Asie et qui se sont déversés sur l'Europe, jusqu'à la France, ils ne pouvaient pas aller plus loin parce qu'il y avait la mer, les Germains, les Vikings et tant d'autres ont été l'un des creusets de l'Europe qu'ils ont, en quelque sorte, à la fois découvert physiquement et en partie réalisé. Et puis le pilier du christianisme et donc les racines chrétiennes de l'Europe. Et quand on songe à la manière dont ces racines chrétiennes ont été niées au moment du traité de Nice, et je veux dire que et M. Chirac et M. Jospin portent à cet égard, à mes yeux, une très lourde responsabilité en fonction d'une conception de la laïcité qui est purement française. Parler des racines chrétiennes de l'Europe, ça n'est pas faire un acte de foi, c'est une réalité historique. D'autant plus que ces messieurs ont oublié que l'héritage chrétien fondamental de l'Europe a été largement laïcisé. Il ne s'agit plus de l'Europe du Moyen-Âge, mais des Erasme, des Montaigne, des Machiavel, ensuite avec Descartes, avec Locke, et au XVIIIe siècle avec Voltaire, Diderot, d'Alembert et Rousseau. Une partie de cet héritage chrétien a été revisitée à la lumière de la raison et fait partie de notre héritage, quelles que soient les convictions religieuses que l'on peut avoir. Et donc, tout ça est extraordinairement éclairant. D'autant plus que Barnaby insiste sur un certain nombre de faits qui ont réalisé et rendu concrète l'Europe du Moyen-Âge. Les grandes foires commerciales étaient des foires européennes. Et puis, il y a cette extraordinaire réalisation qu'est l'université. Les universités créées par l'Église au Moyen-Âge ont été un des ferments de l'Europe. Personne ne s'étonnait que saint Thomas d'Aquin enseigne à Paris et que des théologiens français enseignent à Bologne ou à Vienne, Bologne étant la plus vieille des universités. Ces universités du Moyen-Âge sont un des fondements de l'Europe. Il souligne également que le monde chrétien, l'empire chrétien du Moyen-Âge, a évité ce que d'autres religions n'ont pas évité, qui est la théocratie. Parce qu'il y avait les États et les villes qui étaient autant de limites à une conception de la religion qui aurait couvert l'ensemble des activités de la vie sociale. Et le vrai fondement de la laïcité, il est là. Je ne parle pas du débat actuel sur la laïcité, mais le fait que même dans les pays qui ont une religion d'État, je pense à l'Angleterre et à d'autres, il ne s'agit pas du tout de faire du souverain symbolique autre chose qu'un symbole ou une autorité morale et pas du tout une autorité religieuse, bien que la reine d'Angleterre soit le chef de l'Église anglicane. Les Anglais, les Britanniques sont finalement aussi laïcs que nous. Nous n'avons aucune leçon à leur donner dans ce domaine. Et il y a des pages sur la laïcité qui sont tout à fait éclairantes, d'autant plus qu'elles viennent de quelqu'un qui n'est pas chrétien, par définition. C'est un juif qui nous parle de l'Europe chrétienne. Il nous en parle avec chaleur, avec générosité, mais il est un juif et qui se reconnaît comme tel. Et par conséquent, c'est un éclairage qui nous dégage de toutes les petites querelles qui peuvent être les nôtres. De même qu'il parle avec beaucoup d'intelligence à propos de la période de la Révolution française et de ce qui a suivi, de ce mariage difficile entre la liberté et l'égalité, qui est précisément le miracle des démocraties européennes, même si la liberté n'est pas complètement assurée, même si l'égalité ne l'est pas davantage, le très difficile mariage dont parlait Tocqueville entre la liberté et l'égalité se trouve globalement réussi en Europe. De même, il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé sur les frontières de l'Europe. Il dit : l'Europe a besoin de frontières. Et il nous met en garde contre une conception purement négative de la frontière. Les frontières ne sont pas simplement un cordon policier, c'est l'affirmation qu'un territoire est délimité et qu'à l'intérieur des frontières de ce territoire, il y a des mécanismes de solidarité, de compréhension. Donc les frontières, ça n'est pas quelque chose de négatif, c'est une des affirmations non seulement de la souveraineté, mais de la diversité. Car il s'oppose évidemment de manière très ferme à ce que nous appelons le multiculturalisme, qui consiste à enfermer une communauté dans sa mémoire, dans ses rites, en excluant tout le reste. En revanche, la diversité culturelle de l'Europe est pour lui très importante. Et puis alors, il y a une chose qui m'a enchanté dans ce livre, c'est il parle des grands mouvements culturels européens qui traversent l'ensemble du continent. Et sur ce sujet qui m'est cher, j'ai l'habitude, quand je fais une conférence sur la ou les cultures de l'Europe, d'évoquer des souvenirs d'enfance. Nous avons appris à l'école primaire, j'espère qu'on le fait encore, ce qu'est la géographie physique de l'Europe. Et vous vous souvenez de ce qu'on disait des grands plissements. Le vieux plissement hercynien, qu'on retrouve en Auvergne, en Bretagne et dans d'autres parties de l'Europe, et puis le grand plissement alpin qui distingue l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Eh bien, dans le monde artistique et architectural, vous avez la même chose. Vous avez le plissement roman, le plissement gothique, le plissement baroque, qui structure toute l'Europe, du Portugal à la Finlande. Sauf que le gothique de la cathédrale de Séville n'est pas du tout celui de la cathédrale d'Uppsala, que le baroque de Prague n'est pas celui de Palerme ou de Rome, que le gothique de Westminster n'est pas celui de la cathédrale de Milan ou de la cathédrale de Reims. Ce qui montre que dans ces domaine de l'expression artistique la plus tangible, puisque c'est ou de la peinture, de la sculpture ou de l'architecture, vous avez à la fois un même courant qui, je le répète, parcourt toute l'Europe, mais avec des accents, des nuances définies par l'esprit national de chacun des pays. Et je pourrais en dire autant du romantisme dans le domaine littéraire, musical, théâtral, etc. Voilà un mouvement qui, partant de Goethe et de Rousseau, va parcourir toute l'Europe. Mais Hugo n'est pas tel auteur anglais ou tel auteur allemand. On pourrait aller plus loin avec le surréalisme. Il y a actuellement au Centre Pompidou une exposition sur le futurisme qui a commencé en Italie, mais qui va parcourir toute l'Europe avec chaque fois un accent national. Et je crois qu'on est là au cœur de la réalité de l'Europe, à la fois une et diverses selon ce qui est d'ailleurs sa devise. Alors, le livre se termine par un appel à l'Europe puissance, et pas simplement à l'Europe marché, avec un certain nombre de propositions très concrètes, sur lesquelles je ne veux pas aujourd'hui insister, insistant notamment sur le fait que l'élargissement, qui à beaucoup d'égards était nécessaire, mais a mis dans la même union des pays de niveau économique très différents et dont beaucoup, les plus récemment entrés, n'ont de la démocratie telle que nous la connaissons qu'une pratique assez faible encore. Et donc il en appelle à ce qu'on appelle dans le jargon européen des coopérations renforcées, comme d'ailleurs l'espace Schengen ou l'euro, où les pays peuvent adhérer et qui permettent d'aller plus loin en attendant que d'autres rejoignent. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce livre, qui est un livre court, clair, je le répète, écrit en français et fort bien écrit, qui a le mérite d'être complètement actuel. Ce sont les problèmes d'aujourd'hui, mais situés dans une perspective de temps, y compris d'ailleurs dans le rapport de l'Europe avec le Proche-Orient, avec le reste du monde, où cet homme qui est à la fois des nôtres, mais extérieur à l'Europe, par son passé, par son engagement en Israël, nous apprend beaucoup plus de choses que des gens qui nous sont plus familiers, plus proches, mais qui finalement se répètent. Voilà ce que je voulais dire sur les livres d'Elie Barnavi. Un mot sur le dernier livre de Jean d'Ormesson. Qu'ai-je donc fait ? Ceux qui connaissent Jean d'Ormesson se disent peut-être encore lui. Et c'est vrai qu'il reprend des thèmes qui lui sont familiers, sur sa famille, sur son milieu, sur son amour de la vie, sur sa paresse, sa légèreté, ce qui fait un peu sa coquetterie, mais aussi son charme. Et pourtant, ce livre me paraît important. Je ne dirais pas que c'est le dernier, je lui souhaite au cher Jean d'Ormesson une longue vie. Il y a un côté un peu mélancolique dans ce livre, mais inspiré par une philosophie à la fois très stoïcienne et très inspirée de Montaigne, qu'il cite souvent. Il aura adoré la vie et la vie l'aura gâté. Il est à son sujet, je dirais, sans indulgence et en même temps, il n'échappe pas à une certaine complaisance. Mais il est désarmant par son talent, son humour, cette manière sérieuse de ne pas se prendre au sérieux. Sans étaler le moins du monde sa culture, il sait citer avec beaucoup de pertinence les plus grands auteurs, donnant envie de les relire. Il a d'ailleurs publié une très jolie histoire de la littérature française. Ce qu'il dit de sa famille, de sa jeunesse, de son milieu, nous l'avons déjà lu. Et en même temps, il en parle autrement. Et puis, à la fin du livre, dans des chapitres très courts et qui n'ont rien d'un traité pesant de philosophie, il parle de la mort. Il parle d'un Dieu auquel il ne croit pas vraiment, tout en sachant qu'il y a peut-être autre chose. Et sur ce qui est pour nous inimaginable, qu'est l'au-delà, il n'apporte évidemment aucune réponse. Il n'a pas eu de révélation, il n'a pas eu ce privilège. Personne, d'ailleurs, ne l'a eu. Nous ne savons pas ce qu'il y a. Et nous avons même tendance, depuis les origines de la Bible, à se faire une vision très enfantine, très humaine de l'au-delà. Quand on pense qu'on va retrouver ceux qu'on a aimés, la première phrase qui va lever, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi ? C'est absurde. L'immortalité, si, comme je le crois, elle existe, n'est certainement pas le prolongement, sans souci ni fatigue, de notre existence actuelle. C'est tout à fait inimaginable, et Jean d'Ormesson, on se garde bien de l'imaginer. Mais il a quelques phrases qui ouvrent des perspectives infinies, et rien que pour cela, nous devons lui en être reconnaissants.